Bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes réunis pour nous rappeler de la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix. Nous l'avons fait en chantant des cantiques qui nous parlent de ce sacrifice-là de notre Sauveur crucifié. Sachez que la mort de Jésus, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une mythe, c'est un fait historique. D'ailleurs, la parole de Dieu nous raconte cette histoire-là. Et nous pouvons la trouver, trouver ce récit de la crucifixion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ dans les quatre évangiles. La mort de Jésus, ce n'est pas un accident aussi de parcours dans le plan de Dieu. Jésus même a annoncé, et même quand on a étudié cet évangile selon Luc, au moins trois fois auparavant, Jésus avait annoncé déjà ses souffrances, et sa mort, sa résurrection. Et donc on va aussi le voir ce soir. Personne, frères et sœurs et amis, personne ne peut rester indifférent et insensible à cette scène si triste sur la croix. Les insultes, les humiliations, les moqueries, la souffrance, même les cris des douleurs. Et tous ces événements-là qui entourent la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix. Personne ne peut rester indifférent. Que ce soit, il réagisse d'une bonne façon, il répond bien à ce message de la croix, ou ce soit, il se tourne, il se détourne de la croix. Mais il y a toujours une réaction à ce message, à cette scène triste de la croix. Ce sont les textes que nous avons lire et que je vous invite déjà à lire, c'est Luc 23, 26. Ce texte-là que nous allons étudier nous invite à tourner nos regards vers la croix de Jésus. Tournons nos regards vers la croix de Jésus. Donc, je vous invite à lire Luc 23, du 26 à 56. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappèrent la poitrine et se lamentèrent sur lui. Jésus se tourna vers elles. Elle dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Mais pleurez sur vous et vos enfants, car voici des jours reviendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas d'enfants, enfantés et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car ils ont fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisit en même temps deux malfaiteurs, qu'on allait faire et mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils crucifèrent l'un ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'était né là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présentèrent du vinaigre, en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-moi, et sauve-nous. Mais l'autre le fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais celui-ci a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà la sixième heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement cet homme était juste. » Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes et qui avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du conseil du nom de Joseph, un bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceau et le déposa dans une tombe taillée dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles mêmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph vers le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en retournèrent pour préparer les aromates et des parfums. Puis pendant le sabbat, ils observèrent le repos selon le commandement. Quelques versets qui nous parlent de cette mort sur la croix de Jésus et aussi sur la mise au tombeau. En étudiant ces passages, je fais l'exercice de lire sur les trois évangiles ce même récit sur les trois évangiles. Bien entendu, il parle du même événement, mais avec différents détails, avec quelque chose qui met plus en phase. Mais Luc nous présente quand même des éléments qui ne se trouvent pas dans les autres trois évangiles. Une particularité de Luc est la mention de plusieurs témoins de cette scène, et surtout leur réaction face à cette scène. Une autre particularité de ce passage sur les trois interventions sont trois interventions de Jésus face à cette réaction aussi, et aussi face malgré ses souffrances, Jésus réagit. Il y a quand même un dialogue, des courtes dialogues. Au début, c'est un peu long avec les femmes, comme on va le voir. Mais après, on l'a vu aussi avec le malfaiteur. Et quand même, il essaie de dialoguer, il dialogue avec eux. Puis on voit cette particularité de ces passages. C'est pourquoi je répète encore, personne ne peut rester indifférent, personne ne peut rester insensible à ce que Jésus a vécu sur cette croix-là. Je compte au moins 10 témoins de cette scène. Simon de Cyrène, on l'a vu tantôt, une grande multitude du peuple qui s'était née et regardait, les foules qui étaient venues assister aussi, donc une grande multitude, le peuple aussi. Les femmes de Jérusalem, que Luc fait une différence aussi quand même avec les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. On voit sûrement les deux malfaiteurs, les chefs du peuple juif aussi, les soldats, le centenier et tous ceux qui connaissaient Jésus aussi. Et en dernier, on trouve aussi ce personnage, cet homme-là, que Luc le définit comme un homme juste, Joseph d'Arimathée. Nous avons lu dans le verset 26, les soldats prirent ce Simon de Cyrène, qui revenait des champs, ou d'autres évangiles, ils mentionnent que ce Simon de Cyrène revenait de la campagne. Il faut quand même savoir que bientôt allait être la Pâque, et donc plusieurs Juifs venaient de d'autres endroits pour célébrer cette Pâque-là. On ne sait pas si c'est vraiment ce Simon de Cyrène était quelqu'un qui travaillait dans les champs ou quelqu'un qui venait pour la Pâque. Une chose est sûre, qu'il est pris par les soldats. D'autres évangiles ils disent qu'il est obligé à se charger de la croix de Jésus. Mais Cyrène, c'était une ville en Afrique du Nord, actuellement la Libye. Et cette ville-là est mentionnée aussi dans Acte comme étant une ville des Juifs, dans Acte 6-9. J'aimerais savoir quelle a été la réaction de ce Simon de Cyrène face à cette scène. Le trajet qu'il a fait avec Jésus, on ne le sait pas. Marc, l'évangile de Marc, dans le passage qu'il raconte la crucifixion, il mentionne que ce Simon de Cyrène était le père des deux personnages, Alexandre et Rufus. ces deux gens qui ont existé, sûrement des chrétiens, parce que Marc le mentionne peut-être dans le temps où il était. Rappelons que Marc écrit cet évangile après ces événements-là, et même dans la vie, en étant déjà l'église là installée, l'église avait déjà eu lieu. Donc Marc connaissait ces deux personnages-là, André, Alexandre Rufus, et il mentionne comme quoi ce sont les enfants de Simon de Cyrène. Mais là, on ne sait pas vraiment, on peut supposer que cet homme devient chrétien par la suite. Mais c'est une belle image aussi de voir cet homme-là qui prend sa croix et suit Jésus. Un peu les mêmes paroles que le Seigneur Jésus, il dit, celui qui veut venir vers moi, qui prend en charge sa croix et qu'il me suive. C'est sûr que Luc ne veut pas, n'est en train d'enseigner ça dans ce passage-là, mais c'est une belle image quand même de cet homme-là qui est en arrière Jésus parce que Jésus marchait en avant et il le suivait et en chargeant cette croix-là. En tout cas, j'espère que cet homme-là, Simon de Cyrène, ait pu répondre favorablement à l'Évangile. Et je pense que oui, parce que bon, ses enfants supposément étaient chrétiens. Par la suite, Luc nous mentionne le verset 27, que parmi la foule, il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui se frappèrent. Elles se frappèrent la poitrine en se lamentant. Et la scène a dû être et difficile. D'ailleurs, quand je mentionnais tantôt que Simon de Cyrène, il fallait charger sa croix, pourquoi les soldats ont permis à ce Simon-là de charger cette croix-là? Est-ce qu'ils voulaient, comme... leur cœur était touché, ils ne voulaient pas que Jésus puisse charger sa croix. Je pense que, au contraire, Jésus avait déjà souffert, il a été flagellé, il a été déjà battu, il avait une couronne d'épines sur son front, et peut-être il était déjà faible, et donc ils se sont rendus compte qu'il ne pouvait peut-être pas charger sa croix. Et donc il pourrait même mourir en allant avec sa croix. Et donc il voulait l'humilier, il voulait vraiment que Jésus monte sur cette croix. Et donc c'est pour ça qu'il charge Simon de Cyrène pour qu'il prenne ces croix-là. Et ces femmes-là sont témoins de cette scène-là. Et Jésus, on voit la réaction de Jésus, ces femmes étaient sensibles aux souffrances de Jésus. Et voici la première intervention de Jésus au milieu de ces souffrances-là. Et il ne reste pas insensible aux larmes de ces femmes-là. Au contraire, il leur répond et il donne un avertissement aussi. Ça pourrait être aussi une consolation, un avertissement pour ce qui s'en vient. Là. Et le passage qu'on a lu tantôt, il pensait peut-être probablement au terrible châtiment qui allait tomber sur Jérusalem dans les années 70. Les horreurs du siège là, que cet empereur Titus fait sur la ville, il détruit toute la ville de Jérusalem. Les souffrances et les peines seront infligées en ces jours-là, et surtout sur les chrétiens qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Et Jésus prend le temps pour les avertir. Mais les paroles de Jésus font sûrement référence à ce que le prophète Osée mentionne dans le chapitre 10, 8. Il dit, il parle d'Israël, le péché d'Israël. Il dit, les hauts lieux de Bethaven, ô Israël, a péché, seront détruits. Il dit, les chardons et la ronce croîtront sur leur autel. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous et aux collines, tombez sur nous. Peut-être en parlant de ce qui y allait arriver. Mais je pense que c'est aussi un avertissement au jugement final qui allait avoir lieu. Nous lisons dans Apocalypse aussi, et ces paroles-là sont presque pareilles là, de ce que Jésus mentionne. Apocalypse 6, 16, il parle de ce dernier temps, l'agneau qui va vaincre les méchants, et ces méchants-là, ils ne veulent pas se repentir. Et il mentionne dans Apocalypse 16, il dit... Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sous le trône et de la gloire de l'agneau. Donc on peut quand même, nous pouvons faire référence à ce jugement final et Jésus avertit. Et Jésus finit en leur disant dans le verset 31, car ils ont fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le sens en fait de cette phrase-là, Et si le saint juste doit souffrir ces choses-là, quelle sera la fin de ce peuple-là qui a mis à mort ce Jésus, qui l'a crucifié? C'est intéressant quand même de voir aussi que l'apôtre Pierre parle concernant les souffrances qui ont les chrétiens dans ces mots. Car c'est là, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, il dit. Or, si c'est par nous qu'il débute, ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Donc, on voit quand même cet avertissement et on voit que ces femmes-là ont une réaction et ils sont touchés par cet événement. Luc, je pense qu'il veut, en relatant ces actes-là, ces événements, il veut vraiment que le lecteur soit touché par ce message de la croix, par cette scène. Dans les deux prochains versets, c'est-à-dire le 32 et 33, Luc nous résume le moment de la crucifixion de Jésus. Ces deux courtes versets nous résument vraiment, Luc résume. C'est là le but vraiment qu'on voit de Luc, de vouloir, nous raconter la crucifixion de Jésus, mais il veut d'autres choses aussi, qu'on puisse nous tourner vers cette scène de la croix. La crucifixion était un mode, on le sait, un mode très cruel, humiliante, qui était réservé aux esclaves, il était aussi réservé aux criminels, aux rebelles de l'autorité de Rome, là. Mais le passage, il dit, on conduit Jésus vers un lieu appelé le crâne, hors de la ville. Donc, on pense que c'est... On ne sait pas si c'était vraiment une montagne. Je n'ai pas lu comme quoi c'était un lieu surélevé, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de passants et les gens du peuple pouvaient assister à cette vue-là. C'est sûr qu'il y avait cherché un endroit pour qu'elle soit vue pour plusieurs. Donc, c'est lieu appelé le crâne. On connaît aussi comme le nom dans les autres évangiles, Golgotha, qui est le nom en araméen, est aussi connu comme Calvaire, le mot latin pour crâne. Probablement, cet endroit a hérité ce nom-là de crâne à cause des exécutions. Vous savez, les crânes, des fois, symbolisent la mort. Mais il y avait aussi deux malfaiteurs avec lui. Jésus, Luc nous raconte qu'il y avait deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus, et les crucifier l'un à droite et l'autre à la gauche. Mais il faut, mes frères et sœurs et amis, remarquer la sobriété avec laquelle Luc nous raconte ces événements. Il relate la crucifixion. Aucun détail de cette scène horrible est mentionné par Luc. Il mentionne juste en disant simplement, ils le crucifièrent là. Luc n'explique pas, comme Matthieu ou Jean aussi l'expliquent, les événements qui ont entouré la crucifixion et aussi les accomplissements qu'on voit aussi dans Matthieu. Luc ne le mentionne pas dans cet évangile-là. Par ailleurs, il le fait dans son évangile, mais pas dans le cadre du récit de la crucifixion. En fait, Luc avait pour but de démontrer que Jésus, le Messie, miséricordieux, était là. Et puis il était prêt aussi à sauver encore d'autres gens. Mais par la suite, on voit cette infinie, une grande compassion que Jésus oublie ses souffrances et il mentionne ce mot « Père », pensant aux pécheurs. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En étant dans cette souffrance, Jésus, notre Seigneur, pense aux pécheurs. C'est pour ça qu'il est cloué, il est sur cette croix. Voici une deuxième intervention de Jésus au milieu de ses souffrances, avec ces paroles-là. Ce n'est pas seulement pour les soldats romains qui en crucifièrent. Il faisait juste obéir ce que... aveuglément, ce que ses chefs avaient ordonné. Jésus aussi prie pour ses ennemis. les vrais auteurs, les Juifs là qui ont fait en sorte que ce supplice puisse lui arriver. Mais est-ce que vraiment ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, comme Jésus le mentionne? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je pense que oui, ils savaient qu'ils mettaient à mort un innocent. Mais ils ne savaient pas que cet innocent était leur Messie et le Fils de Dieu vivant. L'apôtre Pierre mentionne plus tard, dans son premier discours, après que l'Église a commencé, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il dit, et il parle aux Juifs, « Vous avez fait mourir le prince de la vie. Nous en sommes témoins, mais je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Il était nécessaire que Jésus puisse souffrir pour nous. » L'apôtre Paul aussi, en parlant du message de l'Évangile, et qu'il appelle la sagesse de Dieu, il mentionne dans 1 Corinthiens 2, « Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. S'ils les avaient connues, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Par contre, ils l'ont crucifié, parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. » Après ces paroles que Jésus mentionne, Luc aussi nous raconte une série de réactions des différents témoins de cette scène sur la croix. Du verset 35 à 39, on voit le peuple qui s'était né, il regardait. On voit les chefs qui s'est moqué en disant, il a sauvé les autres, qu'il sauve lui-même, s'il est le Christ, élu de Dieu, il dit. En faisant référence à comme quoi il était le Messie. Les soldats aussi s'est moqué de lui en lui donnant du vinaigre, en disant aussi, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même et sauve-nous, il dit. Faisant référence peut-être à l'inscription qu'il y avait sur Jésus, celui qui est le roi des Juifs, comme Luc le mentionne. L'un des malfaiteurs aussi, il blasphémait Jésus sur la croix. Et il lui disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi-même et sauve-nous. Mais on arrive au passage unique aussi de l'Évangile, selon Luc, la réponse d'un des malfaiteurs. Face aux insultes de l'autre, il lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait, et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ces malfaiteurs, ils prouvent un double et très profond sentiment. D'ailleurs, il avoue sa propre culpabilité devant Dieu et devant les hommes aussi. Mais il reconnaît la parfaite innocence de Jésus-Christ. Tout est fermé dans cette supplication qu'il fait. Il s'humilie, il demande un souvenir. Souviens-toi de moi. On se demande d'où provient toute cette piété. On se demande où cet malfaiteur connaissait. Parce que ce qu'il mentionne, il dit, quand tu seras dans ton règne, quand tu viendras dans ton règne, cet homme mourant et a cru que Jésus ressusciterait même des morts et qu'il régnerait finalement dans le monde. Peut-être il connaissait les Écritures, peut-être il avait été témoin même, il avait entendu des choses que Jésus avait fait, peut-être il avait entendu les miracles, peut-être il avait entendu aussi qu'il sauvait les gens, il leur disait, voici tes péchés sont pardonnés, peut-être il avait entendu de ça aussi. Mais il se rend compte sur la croix qu'il était vraiment celui qui devait venir. C'est vrai qu'il y a d'autres évangiles, ils nous disent que les deux malfaiteurs se moquaient. Et pour concilier ce texte-là, oui, peut-être, au début, on ne sait pas, Luc ne le mentionne pas, mais Luc, par contre, nous dit qu'un de ces malfaiteurs s'est repenti et il a avoué que Jésus était innocent. Et voici une troisième intervention de Jésus au milieu de ses souffrances et sur la croix, tout juste avant de mourir. Jésus honora la foi de ce malfaiteur. Il lui donna l'assurance que tous les deux ensemble, ils allaient être avec lui, les deux au paradis même. Ces mots paradis, c'est synonyme en fait, du ciel aussi. L'apôtre Paul le mentionne dans plusieurs de ces épîtres-là. Mais il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, quelle rapidité avec moi, quelle compagnie dans le paradis, quel bonheur. Et dans les prochains versets, tout en contraste, ce malfaiteur a été sauvé et viennent les ténèbres, 44 à 45. Les ténèbres recouvrirent toute la terre, ou ça pourrait traduire aussi comme tous les pays, de la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire environ 3 heures de l'après-midi. La nation d'Israël avait rejeté, comme dit l'apôtre, l'évangile selon Jean, ils ont rejeté la lumière. Ils n'ont pas voulu accepter cette lumière-là. Et tout est devenu ténèbres. C'était un acte surnaturel aussi de la part de Dieu à la mort, avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc nous mentionne ici que le voile du temple se déchirant au milieu de haut en bas. Et cette déchirure surnaturelle montre que la mort de Jésus avait ouvert le chemin vers la communion avec Dieu, pour qu'on puisse s'approcher de Dieu maintenant. Hébreux 10, du 20 à 22, nous mentionne ça. Il a ouvert, Jésus, par son sacrifice, il a ouvert la communion avec Dieu, direct. C'est pendant ces 3 heures d'obscurité que Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. À la fin de ce temps, il mentionne ces paroles-là, il dit, il remit son esprit entre les mains de Dieu, son Père, il offrit volontairement sa vie. Il a dit auparavant, je ne suis pas venu pour être servi, sinon pour donner ma vie pour plusieurs, comme rançon pour plusieurs. Jésus s'écria d'une voix forte, d'une forte voix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. En réponse à tous ces événements, entourant la crucifixion de Jésus, de sa mort, on voit encore d'autres réactions. Vous voyez comment Luc nous montre dans tous ces passages, il y a plusieurs réactions des gens qui ont été témoins de cette scène-là. Et pour vers la fin de ce passage-là, on voit du verset 46 à 49, le centenier, cet officier romain, à la vue de ce qui était arrivé, de ces choses surnaturelles, il glorifia Dieu, il dit la parole. Et il dit, réellement, cet homme était juste. D'autres évangiles, ils traduisent, ils disent, cet homme était le fils de Dieu. Mais Luc choisit en disant, cet homme était juste. Et il glorifia Dieu. On voit cette réponse de ce centenier. Quelqu'un qui n'était pas juif, on voit déjà Jésus qui sauva cet homme-là sur la croix, ces malfaiteurs. Et maintenant, c'est le cas de ce centenier. On voit aussi les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu qui étaient arrivées, se retournèrent en se frappant la poitrine, un peu comme les femmes. Cette foule aussi réagit à cette horrible scène sur la croix, et ils s'en vont en se frappant la poitrine. On voit aussi la réaction de ceux qui connaissaient Jésus, il dit dans le verset 49, « Et les femmes qui avaient accompagné depuis la Galilée s'étaient distantes et regardaient ce qui s'est passé. » Peut-être ils avaient peur. Peut-être ils étaient surpris de ce qui était arrivé à Jésus. Ils ne s'attendaient même pas à ça, peut-être, mais ils étaient là, en train d'observer. Finalement, dans les prochains versets des 55 à 56, où Luc raconte la mise au tombeau, son ensevelissement ou sa mise au sépulcre, les femmes, c'est-à-dire Luc, il mentionne celles qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, sont les derniers témoins de Jésus, avec cet homme-là qui est mentionné par Luc, Joseph d'Arimathée. Et Arimathée, en fait, était une ville des Juifs, là. Et Luc le mentionne comme en étant un homme bon et juste. Il attendait l'accomplissement, il dit, des promesses de Dieu et l'établissement de son règne. En fait, le corps des criminels, ce qui avait été habituellement laissé là, les crucifix, on pourrait les laisser pendant des jours, ou sinon les jeter ensuite dans les fosses communes. Mais c'était le disciple en secret, parce que Jean, 1938, nous dit que c'est Joseph d'Arimathée était un disciple qui était caché parce qu'il avait peur un peu de ces Juifs-là. Il croyait en Jésus, mais il craignait les Juifs. Mais par amour à Jésus, il réagit et il ensevelit Jésus dans son propre sépulcre. D'autres évangiles nous disent que c'est lui-même qu'il avait construit. Il prend courage devant Pilate, il demande le corps de Jésus. Et le corps lui est donné et on le met dans le sépulcre. C'est tout ce que l'évangile de Luc nous raconte en ce qui concerne la crucifixion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances. Mais il y a un autre témoin ce soir. En fait, c'est vous et moi en lisant ce récit sur la crucifixion de notre Sauveur. Plusieurs réactions de cette triste scène. Ceux qui se moquent de lui, ceux qui l'insultèrent. Mais il y a aussi les femmes de Jérusalem qui ont une bonne réponse favorable aux souffrances de Jésus. On voit le centenier aussi. On a vu le malfaiteur sur la croix. Même Joseph d'Arimathée. Tous touchés par la croix de Jésus et par son sacrifice. Mais de façon particulière, le malfaiteur. Pourquoi je dis le malfaiteur? En réalité, il y en avait deux comme on l'a vu, mais il y en a un seul qui fut sauvé. Pour nous qui croyons, frères et sœurs, l'espérance et la joie qui nous attend après la mort, c'est la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la présence, être en présence devant notre Seigneur Jésus-Christ. Au cœur de cette promesse faite à ce malfaiteur-là, les mots « Tu seras avec moi » elle est aussi notre espérance à nous aussi. Pour nous, partir, c'est d'être avec Christ. C'est-à-dire, mourir, c'est d'être avec Christ. Et qui est de beaucoup, comme le mentionne aussi, beaucoup de le meilleur qui mentionne l'apôtre Paul. Nous vivons présentement, et vous, je pense que c'est un... Même si on regarde ailleurs cette vidéo-là, nous vivons présentement des temps très difficiles. Et cette pandémie, cette maladie qu'on vit maintenant, c'est des temps que on voit, il y a des chrétiens qui se posent des questions, il y a des gens qui sont dans le désespoir, il y a des gens qui paniquent, qui n'ont pas de réponses. Et Jésus mentionne dans l'évangile, selon Luc aussi, dans le chapitre 12, il dit « Je vous le dis ». À vous, mes amis, ne craignez pas à ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu, qui après la mort a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est à lui que vous devez craindre. Pire, mes frères et sœurs, que cette maladie qui touche tout le monde, c'est la maladie du péché, qui condamne l'homme pour l'éternité. Qui sépare l'homme de Dieu. C'est pire encore que ça. Par contre, Dieu a ce pouvoir-là, mais il a aussi le pouvoir de sauver. Et on l'a vu sur cette même croix qu'il a sauvé ce malfaiteur. De ces deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus, il y en a un qui s'en va au ciel, et malheureusement, il y en a un qui s'en va en enfer. De quel côté vous êtes? De quel côté êtes-vous? Tournons nos regards vers la croix de Jésus. Il peut nous sauver. Dieu peut nous sauver à cause du sacrifice de Jésus. En déposant notre confiance en ce sacrifice, par la foi, en croyant en ce sacrifice, qui est le seul moyen que Dieu peut nous sauver. Vous savez, même Luc, je pense qu'il mentionne que de la même façon que le Fils de l'homme va être... Et la même façon que ce serpent des reins a été élevé avec le temps de Moïse, la même façon le Fils de l'homme sera élevé. Et tout ce qui tourne sa voix vers lui, il sera sauvé. Tournons le regard vers Jésus, vers la croix de Jésus. Il peut sauver. Si nous tournons nos regards vers cette croix-là, soit pour le louer, ça peut être pour le louer, et pour reconnaître le sacrifice et le louer en reconnaissance de ce qu'il a fait sur la croix et ce que Dieu a donné son Fils, à cause que Dieu a donné son Fils. Mais aussi, on peut s'éterner aussi pour croire à son sacrifice et être sauvé. Je finis avec ce verset dans Luc 9, 21-22, comme j'avais mentionné au début, la mort de Jésus, ce n'est pas un accident de parcours. C'était déjà annoncé, même par les prophètes, et même Jésus l'annonce dans ce verset-là. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il est en train de parler avec ses disciples qui avaient confessé qu'il était vraiment le Messie. Il dit sévèrement de ne pas le dire pour l'instant à personne. Mais il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort. Tout cela, on l'a vu ce soir-là. Mais Jésus n'est pas resté mort sur ce tombeau-là, parce qu'il le dit lui-même, qu'il soit mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous allons voir ce dimanche, en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Mais en attendant, je vous prie, amis qui regardez, qui écoutez ce message, tournez vos regards vers Jésus-Christ, qui peut vous sauver, comme dit la parole, parfaitement. Merci.